bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre rendez-vous mensuel avec les livres. Bouillon de lecture, l'émission qui veut vous plonger dans un livre, qui veut titiller vos neurones littéraires en vous lisant un roman. Hervé est là, il s'est chauffé la voix en vous attendant. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Après un roman épistolaire à deux voix le mois dernier, un roman un peu sombre mais fort, que vas-tu nous lire aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je vais vous lire Le quatrième mur de Sorge Chalandon. Alors, je commence par un petit mot sur l'auteur.
Vas-y.
Sorge Chalandon n'est pas n'importe qui, car il est écrivain et journaliste. En effet, après avoir travaillé 34 ans au journal Libération, il est aujourd'hui membre de la rédaction du Canard enchaîné. En tant que journaliste, il a fait des reportages, entre autres, sur l'Irlande du Nord, dont il a tiré deux romans, Mon traître et Retour à Killybegs, qui a obtenu le grand prix du roman de l'Académie française en 2011. Quant au quatrième mur, que je vais vous lire aujourd'hui, il est postérieur, donc, puisqu'il a été publié en 2013, et je peux vous le résumer en une phrase. C'est l'histoire de la mise en scène de la pièce de théâtre Antigone de Jean Anouilh. Oui, mais à Beyrouth. Commençons par le prologue. Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle, elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille, renfermée, que personne ne prenait au sérieux dans la famille, et se dresser seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune, et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone, et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know. Just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know. Supposed to think about you. I know. Act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know. To see when my eyes are closed, or run my hand across your skin real slow, or think
of how we come together and explode. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song is over. Chapitre 1. Samuel dit Sam à Kounis. Pendant des mois, je n'ai pas su que Sam était juif. Il était grec et ne prétendait rien d'autre. Il était étranger, plus vieux que nous, différent en tout. Je me souviens d'un jour d'avril 1974, marchant vers le palais de la Mutualité à Paris. Nous occupions la rue. Sam suivait sur le trottoir, il était tendu, visage clos. À nos cris « Palestine vaincra !» il répondait « Palestine vivra !» sans que je m'interroge sur la différence qu'il faisait entre vaincre et vivre. Je portais un pot de peinture verte. 2 heures avant une réunion sioniste, nous allions peindre un drapeau palestinien devant l'entrée du bâtiment. « Ce n'est pas le jour pour pavoiser !» avait protesté Sam. La veille, jeudi 11 avril 1974, 3 membres du Front de libération de la Palestine avaient attaqué la ville de Kiryat Shmona, en Galilée. Ils voulaient s'en prendre à une école, mais elle était fermée pour Pessa. Alors ils sont entrés dans un immeuble au hasard, assassinant 18 personnes, dont 9 enfants, avant de s'infliger la mort. « On pourrait repousser notre action, non ?» avait suggéré Sam. De notre groupe, il était le seul opposé à cette peinture de guerre. Nous avions mis sa proposition au vote, d'un côté lui tout seul, de l'autre ceux qui estimaient que cette tuerie ne changeait rien à la douleur de la Palestine. « C'est le prix de la lutte », a même prétendu l'un de nous. « 9 enfants ?» a demandé Sam. Il s'était levé, imposant, tranquille. Depuis 3 mois qu'il était réfugié en France, jamais je ne l'avais entendu durcir la voix, fermer les poings ou froncer les sourcils. Quand nous nous battions, il refusait de s'encombrer d'une barre de fer. Il disait qu'une bouteille incendiaire n'était pas un argument. Il redoutait les certitudes, pas les convictions. Un jour, au carrefour, il m'a empêché de crier « CRS, SS !» avec les autres, comme ça m'imposer sur mon bras, ses yeux noirs dans les miens. Nous étions piégés par les gaz, entre 2 quintes de toux. Il m'a demandé si je connaissais Aloïse Brunner. Je l'ai regardé sans comprendre, effrayé par son calme. « Aloïse Brunner, oui, bien sûr, le criminel de guerre nazi !» Nous étions sur le trottoir. Il a arraché ma barre de fer et l'a jetée dans le caniveau. Il a baissé son foulard et m'a poussé devant lui. Je me suis débattu violemment. « T'es dingue !» Il m'emmenait vers le cordon de police, comme un inspecteur en civil traîne sa proie vers le quart des interpellés. « Montre-moi, Brunner, Georges. Vas-y, montre-le-moi » Nous étions face au cordon de CRS, seuls au milieu de la rue, tandis que nos camarades refluaient tout autour. Les policiers s'apprêtaient à la charge. « C'est lequel, Brunner ? Dis-moi » Sam ne me lâchait pas. Du doigt, il désignait un par un les hommes casqués. « Celui-là ? Celui-là ? Où se cache ce salaud ?» Et puis, il m'a libéré. Il a ouvert une porte d'immeuble et m'a poussé à l'intérieur. Je pleurais. Je tremblais du manque d'air. Derrière la porte close, la rue se battait. Hurlements, plaintes, fracas de lacrymogènes. J'étais assis sous les boîtes aux lettres, adossé à la porte d'entrée. Sam s'est accroupi à ma hauteur, m'imposé contre le mur à la recherche d'un souffle. Il a baissé mon foulard du doigt.
Aloïs Brunner n'était pas là, Georges, ni aucun autre SS, ni leur chien, ni leur fouet. Alors ne balance plus jamais ce genre de conneries, d'accord ?
J'étais d'accord, un peu. Ça n'était pas facile. J'aurais pu répondre qu'un slogan était une image, un gros trait, un brouillon de pensée. Mais je n'en ai eu ni l'envie, ni le courage. Je savais qu'il avait raison. « Protège l'intelligence, s'il te plaît », a dit Sam. Et puis, il m'a aidé à me relever. C'est en janvier 1974 que Samuel Akounis est entré dans ma vie. Il est arrivé comme ça, passé d'Athènes à l'amphi 1 de la faculté de Jussieu, pour témoigner de la dictature des colonels. La salle était comble, j'étais au premier rang, assis sur les marches. J'ai frissonné. Un résistant nous faisait face. « Je m'appelle Samuel Akounis et je suis grec. Je vous apporte aujourd'hui le salut des étudiants de l'école polytechnique d'Athènes qui ont bravé les chars de la dictature. » « Et pas celui des étudiantes ?» a coupé une voix dans la salle. Silence dans l'assemblée. Quelques femmes ont applaudi la remarque. Le grec, lui, a souri. Il était amusé. Il a regardé la jeune fille debout dans la travée. « Je pensais que ça allait de soi, mademoiselle, mais dans votre pays, ça n'a pas l'air d'être le cas. » Il parlait un français magnifique, comme une langue apprise en secret. Il a bu le verre d'eau posé sur la table, observant la foule silencieuse. « Je m'appelle donc Samuel Akounis et je vous apporte aujourd'hui le salut des étudiantes et des étudiants de l'école polytechnique d'Athènes qui ont bravé les chars de la dictature, mot qui mériterait d'être masculin. » Applaudissements, rire. L'étudiante elle-même a levé la main pour dire qu'elle se rendait. Et puis Samuel a raconté. Sans effet, sans émotion, un récit précis et sombre. Le 14 novembre 1973, les syndicats étudiants de l'école polytechnique d'Athènes votent la grève des cours. Des centaines d'autres convergent de toutes les écoles en appelant à la chute de la dictature. Dans la nuit, ils sont des milliers rassemblés autour du bâtiment. Le lendemain, les habitants viennent en renfort, jeunes, vieux, familles avec enfants. Polytechnique est occupée, les grilles cadenassées par les élèves, mise en place d'un service d'ordre, distribution des tâches, ravitaillement, couchage, filtrage des entrées. Une infirmerie est installée, une radio libre bricolée qui émet dans toute la ville. Des barricades sont érigées sur les avenues. Voici venir les comités de paysans, les ouvriers, les simples gens lassés des colonels. Le grec parlait, l'amphithéâtre se taisait. Nous n'étions pas habitués à cette économie de mots et de gestes. Il racontait comment on se confie, reprenant sa respiration comme au sortir de l'eau. Il n'attendait de nous ni félicitations ni compassion pour ce qui allait suivre, cette fin que nous savions par cœur, de l'avoir lue tant de fois dans les journaux. Cet héroïsme que nous avions partagé de toute notre colère, la beauté pathétique des matins nus face aux blindés. Combien d'entre nous s'étaient vus enchaînés aux grilles de l'école, tenant tête à la mort ? J'étais de ceux-là. Je me suis imaginé sur le char, jetant une grenade par sa tourelle ouverte, puis ovationné par une foule point tendue. Parfois, je brandissais un drapeau grec, d'autres fois une bannière rouge. Après quelques bières portées par les violons de Mikis Theodorakis, je m'étais sacrifié sous une chenille hurlante. Pendant le film Z, j'avais sauvé Grigoris Lambrakis en portant Yves Montand sur mon dos. J'étais là, face au grec, l'écoutant violemment. Je m'étais rêvé en héros, je n'osais plus croiser le regard de Samuel Akounis. Il racontait la nuit du drame, le samedi 17 novembre 1973. Après 56 heures d'occupation, plus de 20 chars prennent position autour de l'école. À l'intérieur, ils sont plus de 5 000 et 10 000 dans les rues alentour. « N'ayez pas peur des blindés !» répète en boucle la radio rebelle. Les étudiants tentent de négocier une sortie honorable. Ils demandent une demi-heure pour libérer les lieux. Mais, un temps qu'enfonce la grille comme un bélier à la lueur des projecteurs de guerre. Il écrase le portail de fer où les étudiants sont agglutinés. Et personne pour sauter sur la tourelle. Pas de grenade, pas de trêve, rien que la déroute. Le grec a bu un verre d'eau. J'ai été blessé par une broche de la grille, entrée comme une flèche dans ma cuisse. Je suis revenu chez moi en boitant. J'ai mis quelques affaires dans un sac et je suis allé me réfugier chez des amis. J'étais connu comme opposant. Le lendemain, la police est venue me prendre, mais c'était trop tard. J'avais mis un an à obtenir un passeport de touriste et un visa valable pour l'Europe. Une semaine après, j'étais en Italie. Et aujourd'hui, je suis ici, parmi vous qui nous avez soutenus. Je le sais et je vous en remercie. J'ai toussé ma gêne, les autres ont applaudi. Samuel Akounis vous a peu parlé de lui, alors moi je vais le faire, a lancé l'homme assis à ses côtés, par égard pour l'honneur qu'il nous fait d'être aujourd'hui des nôtres. L'homme qui est devant vous s'est opposé au régime de Papadopoulos dès le 22 avril 67, au lendemain du coup d'État. La loi martiale a été décrétée. Les chars et les soldats avaient pris position partout dans la ville, encerclant les édifices publics. Il n'y avait pas de journaux, plus de téléphones, aucune radio à part celle des forces armées. Les banques étaient fermées, comme les restaurants, les musées. Plus de bus, de taxis seulement, les ambulances et les jeeps. Toute la ville allait à pied et au ralenti. Les soldats prévenaient qu'ils tireraient à vue après le coucher du soleil. Le soir même, j'avais réservé une place pour Uburoi, mis en scène en français par Samuel Akounis. J'ai été saisi. Mise en scène, metteur en scène, le grec venait comme moi du théâtre. Metteur en scène, mais bien sûr, évidemment, cette façon d'ordonner ses gestes, ses mots, cette élégance lui permettant d'occuper l'espace en nous laissant dans la lumière. J'étais le cœur battant, une allure, une démarche, un regard. Grec, résistant, artiste, cela faisait beaucoup pour un seul homme. J'étais persuadé que le théâtre de Rebetiko serait fermé comme les autres, mais j'ai décidé de vérifier. A continué l'homme. Les lumières de la façade étaient éteintes, les affiches enlevées, mais un jeune homme gardait la porte entrouverte et faisait entrer ceux qui s'y risquaient. C'était Samuel Akounis. Quelques mois plus tard, alors que nous étions devenus amis, nous avons parlé théâtre pour la première fois. Sam était invité au festival de Vaison-la-Romaine où se jouait l'Antigone d'Anouilh, mise en scène par Gérard Dournel. Liliane Sorval jouait la fille d'Oedipe, roi de Thèbes, et son oncle Créon était interprété par Jean-Roger Caussimon. De son sac, Sam a sorti une Antigone, édité à la Table Ronde en 1945, avec les lithographies « Terre d'ombre et noir » de Jeanne Pêcheur. Il l'a agité comme un poing levé. « J'ai souffert avec la petite maigre, et elle a combattu à mes côtés. »« La petite maigre ?» Sam s'est raidi, sa façon de froncer les sourcils. Toujours, il plissait les paupières comme s'il réfléchissait intensément. « Tu ne te souviens pas de l'entrée en scène du prologue ?» Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Sa voix de théâtre avait une autre voix. Elle chuchotait la soie des mots. Lorsque le rideau se lève, les acteurs sont en scène, occupés à ne pas nous voir, protégés par le quatrième mur. Le quatrième mur ? J'avais déjà entendu cette expression sans en connaître le sens. Le quatrième mur, c'est ce qui empêche le comédien de baiser avec le public, a répondu Samuel Akounis. Une façade imaginaire que les acteurs construisent en bord de scène pour renforcer l'illusion. Une muraille qui protège leur personnage. Pour certains, un remède contre le trac. Pour d'autres, la frontière du réel. Une clôture invisible qu'ils brisent parfois d'une réplique s'adressant à la salle. « Souviens-toi des premières secondes. Tous les acteurs sont présents. Aucun n'est en coulisses. Il n'y a pas d'arrière-scène, pas d'entrée fracassante, de sortie applaudie, pas de claquement de porte, juste une lumière où entre celui qui parle et l'obscurité qui recueille celui qui vient de parler. Le décor, une volée de marches, un drapé de rideaux, une colonne antique. C'est le dépouillement à l'état pur. Sa colère est soumise au divin, alors que la petite nègre te ressemble. Me ressemble ? En 24 siècles, elle est passée d'un cœur rituel offert à Dionysos à une histoire moderne, du religieux au politique et du tragique à la tragédie absolue. Quel rapport avec moi ? Une héroïne du non qui défend sa liberté propre, devine. J'ai rendu son sourire à Sam. D'accord pour Anouilh, merci de me l'offrir, je le lirai. J'ai promis ça comme on donne l'heure à un passant pressé. Je n'imaginais pas l'importance du cadeau que Samuel Akounis venait de me faire. Lui non plus ne devinait pas que cette terrasse de juillet changerait sa vie et la mienne. Pour l'instant, il sentait que je n'écoutais pas. Ma promesse molle, mon corps distant tourné vers le serveur, à l'affût d'un peu de vin en plus. Mais il ne m'en a pas voulu.
Il y a tout le temps 4 ans d'allumer sur le feu de mes ambitions. À force de me dépasser, je me perds moi-même dans l'horizon. Sans faire pour tout et rien, jouer du coude pour garder sa place. À vivre que pour demain, je ne fais que survoler mes traces. Et octobre vient de passer un coup de vent. Une autre année où je n'ai pas pris le temps de voir.
Deuxième chapitre, Jean Anouilh. Sam n'a pas voulu que je vienne à l'hôpital. Depuis 1979, Samuel Akounis partageait sa vie entre Beyrouth et Paris. Il montait deux spectacles en parallèle, Brecht à Paris et l'Antigone d'Anouilh à Beyrouth. Un jour, il avait même eu les honneurs de libération. Un grec va se faire voir chez les Libanais. Le titre était insolite, mais l'article lui était favorable. Dans un portrait de dernière page, le journal racontait Samuel Akounis, l'enfant rescapé, le résistant grec, le juif devenu sioniste et resté pro-palestinien, le metteur en scène chéri des cercles parisiens sans jamais s'y être commis. « Je suis un boulevardier », répondait-il au fervent du tragique. Le drame était un cadeau qui l'emballait de burlesque. Le journal racontait qu'il savait cogner aux portes pour défendre son théâtre de poche. Personne ne vivait plus des recettes de la billetterie. Alors, il tendait sa sébile sans honte. Centre culturel, association, ministère. Il aurait pu en rester là, expliquait Libération. Mais le Liban l'a pris par le col. Antigone aussi l'avait envoûté. Depuis toujours, Sam voulait monter la pièce d'Anouilh dans une zone de guerre. Offrir un rôle à chacun des belligérants, faire la paix entre cour et jardin. Un soir, il est venu me voir, bouleversé, respirant avec peine. Des chrétiens libanais avaient attaqué le bidonville palestinien de la quarantaine à Beyrouth. 30 000 miséreux entassés dans des baraques recouvertes de tôle. Après le bombardement du quartier, des miliciens avaient fait le tri, brisant les cohortes de drapeaux blancs. Les femmes et les enfants à gauche, les hommes en âge de porter des armes à droite. Des centaines de morts. Puis le quartier avait été dynamité pour que personne ne respire, que rien ne repousse. Et voilà que 2 jours plus tard, des Palestiniens, des Libanais et des miliciens étrangers étaient entrés dans Damour, un bourg chrétien au sud de Beyrouth. Enfants, femmes, hommes... Les vivants assassinés, les morts profanés dans leurs tombes, le supplice d'une ville pour le martyr d'un quartier. Je me souviens du visage de Sam. Il était effondré. Il a eu la fièvre pendant des mois. Il a contacté l'ambassade de France, le consulat, le centre culturel, l'association française d'action artistique, des amicales, des clubs des deux côtés de la ligne de front. Les musulmans d'abord, une troupe de jeunes sunnistes à Amra, puis un groupe de chiites du théâtre Taziyeh, qui n'avait que la mort du prophète Hussein pour répertoire. Sam a aussi découvert une compagnie palestinienne à Shatila. Avec la patience et le temps, il a débusqué 2 associations de spectacles druzes dans la montagne, puis des acteurs chrétiens. À tous, il a juste dit qu'il était grec, metteur en scène, et qu'il souhaitait monter Antigone au Liban. Chaque communauté a cru qu'elle était la seule sollicitée. Sam ne pouvait expliquer son projet par lettre. Il attendait d'être face à face pour raconter. Sur les conseils de l'ambassade de Grèce, il avait aussi prévenu le ministère français de la culture, les autorités religieuses et informé le gouvernement libanais. À chaque courrier, toujours le même, il avait joint la cession de droits d'auteur, la convention de représentation ainsi qu'une recommandation signée par plusieurs directeurs de théâtre. Et aussi, surtout, quelques mots bienveillants signés de Jean Anouilh. Pendant des jours, Sam a attendu, puis 2 semaines. Au bout de 4 mois, les chrétiens ont répondu, puis les chiites. La réponse des druzes est arrivée en juillet 76 et celle des sunnites en novembre. Tous acceptaient de recevoir le grec. Sam était seul dans la chambre, il parlait à voix faible. Il s'excusait. Oui, il aurait dû me dire qu'il était malade. Depuis son arrivée en France, il souffrait du thorax. Il respirait à peine. Il avait des maux de tête et des articulations douloureuses. Je n'ai jamais fumé de ma vie. Alors, il a pensé aux suites des tortures subies au gaz dans la gorge. Un jour, après s'être épuisé à monter un escalier, il avait craché du sang. « Je n'aime pas cette tâche », lui avait dit le radiologue, et aussi que Sam s'y prenait bien tard. Il a perdu l'appétit, il a maigri. À Beyrouth, il était suivi par le médecin de l'ambassade de Grèce. À Paris, un ami cancérologue l'accompagnait. Il n'était plus opérable. Il avait subi une chimiothérapie pour rien. Après les poumons, le foie était touché. Je lui en voulais. Je m'en voulais aussi. La fin de mouvement nous avait séparés. La vie s'était chargée de nous disperser. Sam m'avait donné son adresse à Beyrouth, son numéro de téléphone aussi, mais je ne l'avais jamais appelé. Il existait pour moi, c'était suffisant. Je pensais que notre amitié se nourrissait de distance, et je m'étais trompé. J'avais perdu 3 ans de lui. Je me suis levé, la fenêtre donnait sur le périphérique au loin. L'hiver avait saisi la ville, elle frissonnait sous les plaques de givre. Samuel a souri. Il lui manquait les dents sur le côté. Sa peau était jaune, ses yeux profondément cernés, tachés de sang comme après coup. Le dos de ses mains était piqueté de brun. Ses ongles étaient sombres, presque noirs. Mon Sam, je ne l'ai pas reconnu lorsque je suis entré. J'ai retenu mes larmes. Il était flétri par tout ce temps manqué. « Tu n'y es pour rien, tu sais ?»« Je savais, bien sûr. » Il a ouvert la main, j'y ai posé la mienne. Jamais je n'avais tenu mon ami autrement que par le regard. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Il a levé les yeux. Beaucoup. Tu peux faire beaucoup. Je me suis rapproché. Il sentait l'aigre, l'éther, l'eucalyptus. Il avait une barbe de plusieurs jours. J'ai passé le dos de ma main sur sa joue. Il a fermé les yeux. Il était épuisé. Il voulait me parler de Beyrouth, d'Antigone. Il fallait que je revienne, vite. Il disait que la vie filait entre ses paupières. Demain ? Le lendemain, j'ai repris ma place à la tête du lit. Sam dormait, j'ai attendu. Sur la table de nuit, il avait posé l'Antigone qu'il m'avait montrée des années plus tôt, et aussi la kippa de son père. Il respirait mal. De son torse montaient des joies chuchotées, des plaintes mêlées à son souffle. J'ai calé ma respiration sur la sienne. Je regardais battre son cœur sur l'écran du moniteur cardiaque. Puis, je fermais les yeux. Je comptais les pulsations, je me suis endormi. 2 infirmières sont venues faire sa toilette. Il dormait toujours. J'ai effleuré ses doigts et je suis parti. Je suis revenu 2 jours plus tard. Sam était réveillé, la nuque calée par 2 oreillers. Il m'attendait. « Antigone va être jouée à Beyrouth. » J'ai hoché la tête, je le savais. Sam avait trouvé ses acteurs et même quelques doublures. Il n'avait pas encore répété, mais tous s'étaient rencontrés une première fois dans un local appartenant à l'ambassade de Grèce. Antigone était palestinienne et sunnite, et Mon son fiancé, un druze. Créon, roi de Thèbes et père d'Émon, un maronite. Les 3 chiites avaient d'abord refusé de jouer les gardes, personnages qu'ils trouvaient insignifiants. Pour équilibrer, l'un d'eux est aussi devenu le page de Créon. L'autre avait accepté d'être le messager. Au metteur en scène de se débrouiller. Une vieille chiite avait aussi été choisie pour la reine Eurydice, femme de Créon. La nourrice était une chaldéenne et Ismène, sœur d'Antigone, catholique arménienne. Le casting avait duré 2 ans. Tous ces jeunes avaient fait un peu de théâtre, sauf Eurydice, qui n'aurait qu'à tricoter pour les pauvres de Thèbes. Sam s'était d'abord présenté comme grec, lui serait le cœur, voix essentielle dans le théâtre antique. « Tu vas monter Antigone, Georges. » Je me suis rapproché. Pardon ? Non, c'est moi qui te demande pardon. Je n'ai plus ni le temps ni la force. Il a fermé les yeux. Il était comme un très vieil homme. Le plus dur est fait. Tes personnages sont prêts. Ils t'attendent. Mes personnages ? Cette fois, c'est moi qui manquais d'air. Il chuchotait à peine. Sa voix sonnait le métal. Il expliquait que chaque acteur avait appris son texte et qu'il suffisait de quelques répétitions. Il n'y aurait qu'une seule représentation en octobre. Il faudrait une salle neutre, ni dans l'ouest de Beyrouth, ni dans l'est. Sur la ligne de démarcation. Une ancienne école, un entrepôt, n'importe quoi. Il voulait un lieu qui parle de guerre, labouré de balles et d'éclats. 4 murs ou seulement 3. Pas de toit, peu lui importait. Il avait visité un cinéma délabré qui lui plaisait. Il imaginait les communautés entrer dans ce théâtre d'ombre par les deux côtés du front. Il les voyait avec des chaises pliantes, des coussins, des bouteilles d'eau, des pistaches, tous ensemble, rassemblés. 2 heures d'une soirée d'automne, avec les combattants crosse en l'air, le temps d'un acte. « Tu vois ?» m'a demandé Sam. « Non. » Mais lui voyait. Il m'a décrit la scène de gravats, les 3 portes peintes sur un mur grêlé, le visage des spectateurs, le cercle de lumière blanche, ses acteurs. « Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. » Samuel Akounis luttait pour la vie d'Antigone. Il combattait, couché, rassemblant ce qui lui restait de courage. « Prends mon carnet de travail sur la table de chevet. Lis-le, complète-le, remplis-le. Ce sera ta feuille de route. Prends aussi la pochette de plastique avec tout ce qu'il y a dedans. La prochaine fois, je te donnerai un disque et un cadeau pour l'actrice palestinienne. » J'ai regardé le carnet noir à tranches violettes fermé par un élastique. Il était posé sur la kippa du père Sam. Il m'observait. Il semblait déçu par mon silence. « Dis oui, Georges. »« Oui. Je n'ai pas regretté tout de suite, ni dans le couloir de l'hôpital, ni dans la rue respirant l'hiver à pleine vie, ni dans les escaliers montant lentement vers la voie de ma fille. C'est face à Aurore, ma femme, que j'ai douté. Tu lui as promis quoi ?» Louise avait 2 ans. Elle s'agrippait à ma jambe fragile. Elle ressemblait à sa mère, vraiment. Une aurore minuscule, les pommettes, les cheveux et un peu de moi dans le regard inquiet. « Réponds, Georges, tu lui as promis d'y aller ? Tu as pensé à nous ? Il y a la guerre là-bas, tu te souviens ? Oui, la guerre, je me souvenais. C'était justement pour imposer son contraire que Sam avait choisi le Liban. Aurore savait tout ça. Elle savait aussi que ma décision était prise. Elle gaspillait 3 mots, mais n'espérait plus me convaincre. » Aurore avait couché Louise, elle avait peur pour elle, pour notre enfant. Cette fois, il ne s'agissait pas de réciter 3 répliques de théâtre dans une maison des jeunes, mais de s'élever contre une guerre générale. C'était sublime, c'était impensable, impossible, grotesque. Aller dans un pays de mort avec un nez de clown, ressembler 10 peuples sans savoir qui est qui, retrancher un soldat dans chaque camp pour jouer à la paix, faire monter cette armée sur scène, la diriger comme on mène un ballet, demander à Créon, acteur chrétien, de condamner à mort Antigone, actrice palestinienne, proposer à un chiite d'être le page d'une maronite, tout cela n'avait aucun sens. Je lui ai dit qu'elle avait raison. Ses remarques étaient justes, la guerre était folie. Sam disait que la paix devait l'être aussi. Il fallait justement proposer l'inconcevable, monter Antigone sur une ligne de feu, aller prendre les combats de cour. Ce serait tellement beau que les fusils se baisseraient. « Pour 1 heure, » a ricané Aurore. Elle était assise, je me suis accroupi entre ses genoux. « 1 heure de paix ? Et tu voudrais que nous rations ça ?» Elle avait retrouvé son sourire. Elle voulait des garanties, savoir qui m'attendrait à Beyrouth, qui me protégerait de cette ville et qui m'en délivrerait. Elle voulait une date de retour pour chaque voyage. Elle voulait connaître les noms des acteurs, tous. Elle voulait que tout soit prêt là-bas avant que j'y arrive, que je n'ai plus aucun doute sur rien. Elle voulait qu'à la moindre incertitude, à la plus petite alerte, face à n'importe quel danger, je renonce. Jure. Je jure. Non, pas comme ça. Dans mes yeux, jure sur ta fille. Je le jure sur notre fille. J'avais pris les mains d'Aurore, toujours à ses genoux. Elle m'a regardé longtemps soucieuse. Elle serrait mes doigts à faire mal. Louise a hurlé dans son sommeil. « Tu vas lui manquer, » a dit ma femme. Et puis elle s'est levée pour aller voir notre fille.
He doesn't play for the money he wins. posso finder en sol. The sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Troisième chapitre, Iman. La rue était étroite, défoncée, inondée par endroits. Voitures, camionnettes, charrettes à bras, klaxonnent pour rien, étals de fruits, de cigarettes, de parfums frelatés. Tout ici ressemblait à Beyrouth en plus pauvre, en plus triste, en plus désorienté. Marwan roulait silencieusement. Il n'aimait pas les Palestiniens, il me l'avait dit crûment. Il s'était arrêté à l'entrée du camp de Chatila pour les déposer bien en vie, négligemment, à l'image d'un homme qui s'était débarrassé de sa coiffe pour conduire. L'artifice ne trompait personne, c'était un gage de bienveillance. J'étais tendu, aux aguets. J'ai eu le cœur serré. Pour la première fois de ma vie, je voyais un vrai drapeau palestinien, une grenille lacérée pendue au fer forgé d'un balcon. Je n'avais pas de mots pour cet endroit, ni quartier, ni ville, ni bidonville, ni ghetto. mais quelque chose de tout cela. Un boyau monotone de petits immeubles gris, des maisons basses, d'impasses défoncées, de murs écorchés, de béton brut, des fenêtres borgnes, de tôles ondulées, de boutiques misérables aux rideaux de fer béant. Des fils électriques rayaient le ciel, des centaines, pendant d'une fenêtre à l'autre, d'un toit au suivant, parcourant les rues parfois à hauteur d'homme. Dans certaines impasses, le réseau de câbles était tel qu'il pesait comme la nuit. Sur les terrasses, des barbelés piquetés de lambeaux, frémissants, débris de papier, fragments de plastique, ballons crevés oubliés par le vent. L'air était malsain, fétide, lourd comme un fruit corrompu. Partout, au carrefour, des amas d'ordures finissaient de brûler. Aux odeurs fermentées, le feu ajoutait son écœurante fumée grise. Des enfants aux pieds nus partageaient dans ce jus. Ils couraient après notre voiture, en riant. Marouane les chassait de la main. Il était crispé. Il s'est raidi. « Fédaïne !» a murmuré mon chauffeur. Trois bidons d'essence barraient la rue. Ils avaient été gavés de ciment et disposés en chicane, décorés du portrait en couleur de Yasser Arafat. Assis sur l'un d'eux, un homme, fusil d'assaut entre les cuisses, il s'est levé, actionnant la culasse. Deux autres étaient contre un mur, assis sur des chaises en plastique. Le premier a levé la main, il avait un foulard. Il l'a remonté sur les yeux, Marouane a arrêté la voiture et coupé le contact. Le Palestinien nous a fait signe de descendre de voiture. « Ton passe, m'a soufflé mon ami, ton passe, donne-le. » J'ai sorti mes cinq laissés-aller en éventail comme un joueur de poker tient son jeu. Marouane a ouvert des yeux immenses. Il tremblait. Il a haussé les épaules, s'est excusé sans mots, main ouverte, implorant le pardon du Palestinien. L'homme au keffieh a baissé son foulard. Il a éclaté de rire. Il avait des lunettes rondes, une barbe de quelques jours. Il ressemblait à un étudiant, pas à un milicien. Son camarade a pris mon jeu, toutes mes cartes, il les a étalées une à une sur le capot de la voiture. Les autres l'avaient rejoint en riant. Le coupe-fil de l'armée libanaise, celui du parti socialiste progressiste Druze, celui des milices chrétiennes, le laissez-passer chiite du mouvement Amal et celui du Fatah. Le combattant a pris celui-là, deux bras armés et grenades sur fond de Palestine. Il agitait le passe comme un hochet. « You speak English ?»« Un peu, j'ai répondu, comme tout le monde. » Marouane s'était placé à mon côté. Son regard désolé alla des uns aux autres. Il n'avait pris aucune distance avec moi. Je le sentais tout comme contre. Il faisait corps. Ce jour-là, j'ai été rassuré à jamais. Mon Druze n'approuvait pas la pièce de théâtre. Il m'avait reçu avec méfiance, mais tiendrait la parole donnée à Samuel Akounis. Il n'aimait pas Antigone, mais il la respectait. Le Fedaïn m'a montré le sauf-conduit du Fatah. Il souriait toujours. « This is the wheel cart, the only one !» J'ai secoué la tête, je ne comprenais pas. « C'est le Joker !» a murmuré Marouane sans quitter le combattant des yeux. « Joker ? Ah yes, you understand, Joker ? Arafat is the Joker !»« Joker !» J'ai hoché la tête en souriant blanc. Oui, je comprenais bien sûr. La seule carte qui sauve. Un Palestinien avait ramassé toutes les autres. Il a fait mine de les déchirer. Mon Druze a repris la parole. Il parlait, montrait sa montre, montrait sa voiture, son passager, son cœur. Je l'ai entendu dire « Antigone ». Le Fedaï a interrogé son chef. L'autre a eu un regard indulgent. Il a hoché la tête, celui qui avait les cartes me les a rendues. « Allez-y, roulez, bienvenue à Chatila !» Nous avons continué sur la rue principale, puis tourné avant l'hôpital. Marouane était gris, bouche entr'ouverte, ses mains tremblaient sur le volant. Devant un terrain vague, il s'est arrêté, soulevant un nuage de poussière grise. Il a ouvert son capot. « Descends, Georges !» Protégé par un angle de mur, il a tendu la main. « Donne-moi tes passes !» Il jetait des regards autour de nous. « Quand tu arrives dans un camp, tous les autres sont des ennemis. Tu comprends ça ?» Je comprenais. Si un milicien te demande un laissez-passer, c'est celui de son mouvement que tu sors, et pas un autre, compris ? J'ai hoché la tête. Alors il ne faut pas que tu les gardes ensemble, tu dois les disperser dans tes poches. Et je fais comment pour me souvenir ? Un pick-up Toyota est passé bruyamment dans la rue. Marwan s'est jeté sous son capot comme s'il inspectait le moteur. Il y avait 3 combattants palestiniens armés sur la plateforme arrière et une mitrailleuse lourde. Le druze s'est relevé. « Ne mens pas, tu soutiens qui ?» Je l'ai regardé sans comprendre. « Oublie que je suis druze, tu comprends qui dans cette guerre ?» J'ai bredouillé. « Je ne savais pas, j'étais ici pour la paix, pas pour la guerre. J'ai parlé d'Antigone. » Une nouvelle fois, j'étais perdu. « Réponds, Georges, c'est important. Les phalangistes, les chrétiens ?» J'ai secoué la tête. « Les Palestiniens, j'ai dit. » Marwan a haussé les épaules. Il a sorti la carte Fata de mon jeu. « Arafat ? Alors tu le mets sur ton cœur. Comme ça, tu te souviendras. » Il a glissé le carton dans la poche gauche de ma chemise. Il m'a montré la carte druze. « Tu me payes ? Alors tu la portes côté portefeuille. » Je retrouvais ses sourires du début. « L'armée libanaise, dans ton passeport, c'est un document officiel, tu peux le sortir partout, personne ne te le reprochera. » Restaient les chiites d'Amal et les milices chrétiennes. Eux, tu t'assieds dessus, d'accord ? Pour toi, les chrétiens libanais sont des fascistes, fesses d'extrême droite. Amal, fesses gauche ? Marwan m'a tendu le dernier laissez-passer en riant. « Yalla, tu fais attendre ton Antigone !»
Here in northeast Ohio, back in 1803, James and Danny Heaton found the ore that was lined in Yellow Creek. They built a blast furnace there along the shore, and they made a cannonball that helped the Union win the war. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. Well, my daddy worked the furnaces, kept them hotter than hell. I come home from now, I'm working my way to Scarford, a job that suits the devil as well. Well, the taconite, coke, and limestone fed my children and made my pay. Them smokestacks reaching like the arms of God into a beautiful sky, soot and clay. Here in Youngstown, here in Youngstown, sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. Well, my daddy come on the Ohio Works when he come home from World War II. Now the yard's just scrapping rubble. He said them big boys did what Hitler couldn't do. Yeah, these mills, they built the tanks and bombs that won this country's war. We sent our sons to Korea and Vietnam. Now we're wondering what they were dying for. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. From the Monongahela Valley to the Mesabi Iron Range, to the coal mines of Appalachia, the story's always the same. 700 tons of metal a day, now sir, you tell me the world's changed. Once I made you rich enough to forget my name. In Youngstown, Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown.
When I die, I don't want no part of heaven. I would not do heaven's work well. I pray the devil comes and takes me to stand the fiery furnaces of hell.
C'était donc la première partie du quatrième mur de Sorge Chalandon. Nous faisons une pause. Nous vous lirons la suite dans 15 jours, le lundi après-midi, à 14h sur cette même chaîne. À bientôt.